midi 7, merci beaucoup d'écouter Radio Alpha, la radio lusophone en France. Vous écoutez plus précisément l'Alpha 10-13. Je suis Didier Carmalo et je suis maintenant en compagnie d'Alexandra Vieira. Bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Alexandra, vous êtes journaliste, vous êtes animatrice radio, vous êtes auteur, vous avez été professeur. Nous allons revenir sur votre parcours allegro, pour reprendre un terme musical, puisque nous aurons aussi la possibilité de parler de musique. Vous venez aujourd'hui nous parler de votre nouveau roman, votre second roman. Il a été publié le 21 septembre dernier aux éditions Plume de Marmotte. Il s'appelle Comme dit la chanson, et je dis second roman puisque en 2021, vous aviez déjà publié Julia Florist. Ma première question est très simple. Qu'est-ce qui vous a poussé, Alexandra, à écrire ce second roman ?
Je pense que dans la foulée du premier, j'avais envie de continuer à parler de musique. Et celui-ci m'est apparu assez rapidement, à vrai dire. C'est comme un sportif quand il est avec les muscles chauds, il a envie de continuer son parcours. Et voilà, je voulais aussi aborder d'autres univers musicaux, puisque Julia Florista se déroule dans un univers fado. Mm-hmm. J'avais envie de partager d'autres goûts musicaux qui sont les miens, liés plus au jazz, au R&B.
La musique américaine.
La musique américaine, beaucoup, c'est vrai.
Vous parlez dans ce roman, comme dans le précédent, de musique. Je dirais même que la musique est un personnage de ce roman, comme dit la chanson. Cela m'oblige à vous demander, quelle est la place de la musique dans votre existence ?
La place de la musique est assez importante dans ma vie, du fait que...
Vous chantez du fado, quasiment.
C'est vrai, c'est vrai.
Et votre mari joue de la viole.
Un viola de fado, oui, oui. Alors lui, c'est très souvent, hein, chaque semaine, il est en concert, que ce soit en Île-de-France ou dans d'autres régions, voire parfois même dans d'autres pays. Il accompagne de grands chanteurs, de grandes chanteuses. Voilà, moi, c'est plus modestement que je participe parfois à des concerts ou que j'en fais. Mais c'est vrai que voilà, le fado est très présent à la maison. Les instruments à cordes envahissent le salon de toute nature. Dernière acquisition en date, c'était une mandoline, voilà, qui a été fabriquée chez un luthier à Vienne du Kösterl. Voilà, et plus, bon voilà. Donc la musique est très présente. Et puis c'est vrai que bon voilà, bien avant, même dans mon enfance, mon adolescence. La musique, qu'elle soit portugaise, française ou américaine, notamment musique noire américaine, était également présente. Je pense que je peux pas passer une journée sans musique.
Ce roman, comme dit la chanson, est l'histoire, pour le raconter assez brièvement, de Anna, qui découvre que son mari Marc, avec qui elle a deux enfants, des jumelles, assez espiègles et très sympathiques d'ailleurs, la trompe. Et donc, c'est un monde qui s'effondre, ce couple, sa vie, et c'est l'histoire de cette reconstruction, de qu'est-ce qu'on refait quand on repart à zéro, quand on est une femme, cette question est importante aussi, et notamment avec la musique, avec l'aide de la musique, elle va rencontrer un Erwan qui est pas du tout un prince charmant, on va en parler également. Et justement, cette situation de la catastrophe qui s'annonce, on la ressent très vite dès les premières pages.
Oui, c'est vrai. J'ai voulu installer cette tension dès le début pour que les lecteurs sentent le malaise. Ça, j'ai vraiment travaillé beaucoup là-dessus au niveau de l'écriture. Oui, c'est vraiment le terme de catastrophe. Je trouve qu'il est assez bien choisi. Merci Didier. Parce que on sent que elle a une vie confortable, elle évolue dans un univers qui lui est familier depuis bien des années, mmh. Quelque chose un peu rodé, voilà, la routine. Et malgré tout, dès les premières pages, j'ai voulu installer le doute, puis le malaise, pour qu'on accompagne Anna dans sa découverte de ce qu'elle ne voudrait pas découvrir précisément. Et cette tension, pour moi, elle était importante, non seulement pour capter le lecteur, mais aussi pour qu'on se mette à la place d'Anna. Ça, pour moi, c'était important que on puisse, si ce n'est s'identifier, en tout cas, la comprendre, je dirais presque de l'intérieur.
Mmh. Oui, puisque comme on le disait ici, quand on commence la lecture, il y a tout de suite des signaux partout, des signaux de la catastrophe qui s'annoncent pour Anna, de la tromperie, de la séparation, etc. Le parfum, par exemple, c'est un fil rouge dans le roman, j'ai l'impression. Est-ce qu'on pourrait dire de votre roman qu'il est un roman sur les sens ? Louis, par la place incontestable de la musique dans cette fiction, l'odorat, puisqu'il y a une certaine sensibilité aux odeurs, le détail du parfum que j'évoquais, le toucher, puisque c'est un roman très sensuel, hein, nous en parlerons, qui flirte avec l'érotisme, le toucher, c'est aussi le toucher d'Erwan sur son piano. Est-ce que c'est un roman sur les sens ?
C'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus. J'ai voulu que ce soit un roman un peu hypersensible, on va dire, et avec des perceptions que chacun d'entre nous pourrions éprouver à la lecture. Effectivement, il y a ce parfum entêtant au début qui est là comme un des multiples signaux d'alerte, mais il y a tout ce que vous venez d'évoquer. Pour moi, la sensualité ne se résume pas à l'érotisme qui est aussi présent, mais... J'ai envie qu'on convoque vraiment tous les sens, et notamment l'ouïe avec la musique, ça paraît assez évident, mais pas seulement. Pour moi, se mettre à la place d'un personnage ou se projeter dans une situation de fiction, c'est aussi pouvoir faire comme si on ressentait en touchant, en voyant, en sentant, etc.
Et en même temps, en plus d'être un roman sur les sens, c'est un roman sur le sens, sens comme signification. Parce qu'il y a une différenciation très assumée dans votre livre de ce que j'appellerais la psychologie féminine et la psychologie masculine. La manière qu'a une femme de comprendre, de percevoir, de recevoir une situation ou un geste est très différente d'un homme.
Oui, alors je tiens pas à essentialiser chacun d'entre eux, enfin les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Néanmoins, il y a quand même ce que l'on appelle, selon moi, une sensibilité féminine qui fait qu'on perçoit peut-être le monde, les événements, d'une façon différente des hommes. Et j'avais besoin de montrer ce côté-là, effectivement. Quelle interprétation cette femme-là, je veux pas dire que toutes les femmes interpréteraient ce qui arrive à Anna de la même façon que mon personnage, loin de là. Mais à travers son regard de femme, comment elle perçoit ce qui lui arrive les opportunités qui se présentent à elle. Et oui, pour moi, il y a quand même une altérité. Voilà, une altérité entre la façon de percevoir que peuvent avoir les femmes et celle qu'ont les hommes de voir le monde.
Et nous allons continuer à parler de cette altérité dans un instant. Pour le moment, nous allons marquer une courte pause. Alexandra Vieira, quel est votre rapport à la routine ?
La routine... je pense que j'ai quand même besoin d'un cadre, parce que le cadre, je pense, me rassure, mais je n'aime pas trop m'ennuyer, donc il faut que dans ce cadre, il y ait de la variété. C'est une question difficile, la routine. Non, c'est vrai que j'ai besoin quand même de rituels. Ça, j'aime bien les rituels, des retrouvailles à intervalles réguliers avec des amis ou de la famille, des habitudes, ça j'aime bien, mais il faut que dans ce cadre qui me contient un peu, parce que je suis un peu un esprit un peu fou, tout feu tout flamme on va dire, j'aime bien quand même de la variété parce que la variété et puis la diversité me nourrissent.
Puisqu'à ce propos, vous torturez pas mal votre personnage principal, Anna, qui elle se retrouve sans cadre, un cadre qui lui plaisait du jour au lendemain et qui se retrouve à devoir le construire, ce nouveau cadre.
Oui, ça c'est vrai. Alors, à la différence de mon personnage qui, elle, était satisfaite en fait de ce cadre plutôt routinier.
Assez classique.
Et assez classique, oui. Voilà, mon personnage et moi, il n'y a pas beaucoup de points communs, mais c'est sûr que celui-là, il n'est pas... c'est pas un point commun. Elle avait ce cadre confortable qui lui convenait parfaitement. Et que je trouve tout à fait honorable. Elle a construit quand même quelque chose qui n'est pas rien. Elle a construit un couple, un mariage, une famille. Elle s'occupe de son appartement à Paris, d'une très belle maison vers Bordeaux. Voilà, elle a ce cadre-là et tout s'effondre. Et ça, c'est pas son choix. Elle n'a pas demandé ce changement. Et d'ailleurs, elle recule devant la prise de conscience inévitable de ce qui lui arrive jusqu'au bout.
Oui, elle ne veut pas le voir.
Absolument. Et je pense que ce déni, il est courant quand quelque chose nous plaît et qu'on doit absolument le changer parce que les fondations, sont en train de s'effondrer. Le déni, oui, c'est un réflexe humain. Et elle va devoir reconstruire quelque chose. Et au début, elle n'a pas le mode d'emploi. Et je pense que personne ne l'a. Quand tout notre univers auquel on a travaillé pendant des années s'effondre, malgré nous, le mode d'emploi, il faut l'inventer.
Elle n'a pas la partition et la partition, elle va l'écrire après.
C'est ça. Et d'ailleurs, elle ne pense pas que ça va être une partition au début. Parce que ce qu'elle décide de faire très rapidement, c'est de retourner vivre chez sa grand-mère qui l'a élevée.
À Clamart.
À Clamart, dans les Hauts-de-Seine, pas très loin de Paris. Et pourquoi ? Parce que c'est son point d'ancrage, cette grand-mère. C'est elle qui a été là depuis toujours, alors qu'elle a eu une enfance, une adolescence très compliquée. C'est elle qui s'est occupée d'elle. Et donc, elle revient vers elle parce que c'est ce qui va lui permettre de retrouver un port d'attache, une référence.
Et justement, j'ai envie de questionner maintenant la place du genre dans ce livre. Le personnage principal, Anna, est une femme. Sa figure tutélaire, la vraie, hein, d'ailleurs, bien plus que sa propre mère, c'est sa grand-mère, Mamily, qui vit dans la maison Calamar à Clamart. Sa grande amie, une coach sportive, dynamique, pleine de volonté, qui s'appelle Tatiana, qui incarne le concept de sororité, disons-le. Les hommes, pour aller vite, ce sont Marc le trompeur et Erwan, qui est loin d'être un prince charmant. Expliquez-nous ces choix.
Alors, ce sont pas des choix forcément, volontaires. Au début, je me dis pas, y a que les filles qui vont être gentilles et les garçons vont être des méchants. Ce qui est faux d'ailleurs. Faut pas simplifier renforcer le clivage. C'est-à-dire que oui, bah, il y a la figure du mari qui est un homme ambitieux, pas très sympathique, faut le dire. Et puis, bon, voilà, qui est trompeur. Là où il y a vraiment une construction volontaire, c'est sur le personnage d'Erwan, qui est un musicien qu'Anna va rencontrer, qui est très séduisant, qui a beaucoup de qualités. Mais effectivement, je ne voulais pas qu'il devienne le prince charmant.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je ne suis pas fan des romances où la solution pour les personnages féminins qui sont assaillis de toutes sortes de problèmes, eh bien la solution va être celle d'une histoire d'amour qui va tout sauver et tout va être beau, voilà. Non, je voulais vraiment que cette femme trouve en elle-même les ressources pour se reconstruire. Et d'ailleurs, le personnage d'Erwan, s'il n'est pas le prince charmant, il lui fait quand même beaucoup de bien, à plein d'égards. Il lui redonne confiance en elle, en sa féminité. Il y a une belle histoire qui se noue entre eux et qui sait, peut-être qu'elle se poursuit au-delà de mon histoire. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition. Ça, c'est important pour moi de le dire aussi. C'est-à-dire que c'est un univers où, certes, la place des femmes est importante, puisqu'elle va s'appuyer sur sa grand-mère, sur son amie, Tatiana. Il y a les petites filles aussi, mais ça aurait pu être très bien des petits jumeaux. Hein. Voilà, il s'est avéré que là, c'était des petites filles. J'avais envie aussi de vivre par procuration, parce que moi, je n'ai que des garçons. qu'est-ce que ça pourrait être d'être maman de petites filles ? Voilà, mais les hommes aussi jouent un rôle dans ce livre, alors d'antagoniste par rapport au mari, mais aussi Erwan est quand même un personnage qui pour moi est un personnage positif.
Nous allons marquer une micro-pause et nous revenons dans un instant. Radio Alpha. C'est ce dont nous parlions juste avant, c'est donc l'idée de complémentarité que vous mettez en lumière.
Oui, c'est ça. Je pense que cette complémentarité qu'on oublie parfois dans les débats un peu échauffé, on va dire, sur les questions de genre. La complémentarité, c'est quand même la façon la plus pacifique et puis la plus agréable aussi, quand même, de vivre entre hommes et femmes, je trouve.
Mais vous avez pourtant dit par le passé ne pas aimer l'idée de la moitié.
Alors oui, mais être complémentaire, précisément, c'est pas venir combler un vide, hein, parce que dans l'idée de la moitié, c'est vrai que je le dis souvent en interview, je n'aime pas du tout quand on dit à ma moitié pour parler de son conjoint, de son amoureux, parce que on est un individu à part entière, qu'on soit homme ou femme, et ça me plaît pas trop cette idée de moitié. Alors c'est vrai que ça remonte un peu à une mythologie très ancienne.
Hein, c'est Platon.
Exactement, où on avait séparé les individus en deux parties et la mission un peu de vie, si je peux simplifier de cette façon-là, c'était de reconstruire, de retrouver cette unité. Alors c'est peut-être séduisant parce que on a l'impression de ne former plus qu'un. Peut-être qu'il y a quelque chose d'assez exaltant, mais je trouve bien plus intéressante l'idée que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on vient apporter une nouvelle dimension à sa personnalité. On est déjà un, et là, on va encore se découvrir de nouvelles facettes parce qu'on est deux. Je trouve ça quand même plus intéressant.
L'idée est d'apprendre à jouer ensemble.
C'est ça. Puis voilà, il y a l'idée de pas exiger de l'autre qu'il vienne combler un vide, mais on est voilà dans le jeu, dans cette liberté, voilà, de découvrir et de s'apporter mutuellement encore d'autres choses.
Nous avons parlé du rapport à la routine, de la place de la musique, mais qu'est-ce qu'il y a de vous très précisément aussi dans ce roman ?
Ah, c'est difficile comme question. qu'est-ce qu'il y a de moi? Ouais, vraiment beaucoup de mes goûts musicaux. C'est vrai que là, comme je ne me suis pas limitée à un seul genre, comme c'était le cas dans Julia Florista, où c'était vraiment le répertoire fado qui était mis à l'honneur, là, j'ai pu vraiment laisser libre cours à mes goûts personnels. Je dirais qu'il n'y a pas une seule chanson qui soit évoqué dans le livre que je n'aime pas, voilà, que ce soit, ça va de Dalida à Shania Twain, Maria Carey.
Que vous adorez.
Oui, oui, j'adore. Oui, j'assume complètement ce goût. Voilà, la Shania Twain, c'est une femme dont le parcours est quand même assez impressionnant. Elle vient d'une famille où il y a, voilà, beaucoup de misère à la fois matérielle, affective. Elle s'est occupée de ses nombreux frères et sœurs très jeunes et toujours portée par cette passion de la musique qui l'a emmenée très très loin et très très haut. Donc oui, je suis assez admirative à la fois de sa voix, bien sûr, j'aime son style musical, mais aussi de son parcours. Donc voilà, toutes les chansons qui sont dans ce livre parlent beaucoup de moi.
Et on les retrouve à la fin d'ailleurs.
Oui, voilà, j'ai fait une discographie, une bande son de ce livre pour ceux qui auraient envie de les retrouver et pour les écouter, pourquoi pas en lisant.
Ça vous parle, les femmes qui sont un peu perdues dans leur vie? Puisque c'était déjà l'objet du premier roman, c'était une histoire inédite entre une jeune femme un peu perdue dans sa vie qui rencontre un jeune homme. Là, c'est le cas de Anna, qui a un cadre qui s'effondre, qui disparaît, dont la vie devient complètement instable. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces parcours de femmes instables?
Je pense que ce qui m'intéresse, c'est leur réaction. Comment elles réagissent face à un événement qu'elles n'avaient pas prévu, qu'elles n'avaient pas souhaité. Parce que dans le cas de mes deux héroïnes, elles ne souhaitaient pas, pour l'une, faire la rencontre d'un jeune homme qui va la troubler plus qu'elle ne devrait. Pour Anna, cette rupture, ce divorce qui arrive alors que jamais elle n'y avait pensé. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'une et l'autre vont réagir. Et c'est ça qui est intéressant finalement dans le roman, c'est comment face à un imprévu, quelque chose qui vient chambouler un ordre établi, le personnage va réagir, va évoluer. Est-ce qu'il va s'effondrer? Est-ce qu'il va se reconstruire? Comment va-t-il se reconstruire? Je pense que c'est toutes ces pistes-là qui sont intéressantes à explorer.
Mais donc vous écrivez vos romans comme un miroir ou comme un laboratoire?
Alors, miroir, parce que pour moi, il faut que ce soit vraisemblable, c'est-à-dire que ça ressemble à la vie. Et c'est pour ça que j'essaie de choisir, de construire des héroïnes qui pourraient ressembler à n'importe qui, à notre sœur, à notre cousine, notre voisine, à nous-mêmes. C'est pas des femmes exceptionnelles. Elles n'ont rien d'extraordinaire. Ce sont des femmes même ordinaires, on va dire. Donc là, c'est plus la partie miroir et laboratoire. Oui, c'est une bonne image parce que c'est comme une expérimentation. Et c'est vrai que, voilà, comment va réagir mon cobaye, entre guillemets, face à une situation que je vais lui imposer? Et voilà, un peu de... Je joue avec bienveillance avec mes personnages.
Et ce qui ressort de ces expériences, c'est tout de même le pouvoir immense de l'amour. Non pas l'amour attendu, celui entre le garçon et la fille, celui du prince charmant qu'on questionnait tout à l'heure, mais l'amour, par exemple, à travers le personnage de Tatiana, je le disais, qui exprime la sororité.
Oui, c'est vrai que voilà, cette amitié que l'on peut rapprocher de l'amour, hein, parce que c'est très fort, c'est très inconditionnel, elles se connaissent depuis l'adolescence, et elles sont l'une et l'autre prêtes à tout pour que l'autre soit heureuse. C'est vrai que voilà, c'est l'amour aussi de la grand-mère pour sa petite-fille, de la petite-fille pour sa grand-mère, et je pense que c'est la clé de tout, en dehors de la fiction. C'est ce qui pousse, c'est une énergie en fait.
Vous avez été aimée dans la vie?
Ah oui, je le pense, je l'espère, oui, mais je l'espère, mais je le sais. Oui, je pense que c'est le manque d'amour peut donner des fondations très fragiles et à contrario, donner des fondations extrêmement solides. Moi, je suis toujours très admirative. En fait, il n'y a pas de mérite, donc c'est pas le bon terme. Mais ça me frappe quand je rencontre des gens et que je commence à les connaître, de voir quel a été leur parcours très jeune. Et quand les parents donnent exprime suffisamment d'amour, donne une éducation avec de la bienveillance et puis valorise leur enfant, les adultes sont beaucoup moins fragiles, beaucoup moins perdus, et je crois que c'est un point de départ qui est différent pour les uns et les autres. Donc ça, c'est important. Et puis bon, voilà, il n'est jamais trop tard à la fois pour aimer et être aimé, que ce soit au sein de sa famille ou avec des amis, et les rencontres que l'on fait au quotidien aussi. On n'a pas besoin d'avoir de longues histoires et de grandes histoires. Il y a aussi cette énergie, cette bienveillance qui peut circuler dans tout type de milieu, qu'ils soient amicaux, professionnels. Voilà, c'est cette énergie, cette bienveillance qui, je pense, fait le moteur de chacun d'entre nous.
Et après l'amour, ce qui vous intéresse aussi, c'est la sensualité. Notamment dans la seconde partie du roman, c'est vraiment cette question de la chair. Vous flirtez avec un certain érotisme féminin.
Oui, et c'est pas la partie la plus évidente, parce que il y a toujours deux écueils. On peut tomber dans le quelque chose d'un peu mièvre, un peu mielleux, alors qu'à titre personnel, je n'aime pas du tout. Je sais que j'ai eu des retours de lecteurs, alors pas forcément de mes livres, mais de lecteurs en général, et de lectrices souvent, qui aiment bien ce côté très fleur bleue, où on effleure juste par des mots très pudiques les choses, et qui sont parfois même dérangés quand il y a des détails plus explicites ou des désirs qui sont exprimés de façon plus crue. Et puis l'autre extrême, c'est de tomber peut-être dans quelque chose de trop vulgaire et qui, moi, me met un peu mal à l'aise à titre personnel. Et donc, c'est toujours un équilibre. Comment évoquer l'érotisme de façon quand même, on va dire... c'est piquante qui me vient à l'esprit, mais pourquoi pas, un peu relevé, sans sombrer dans quelque chose qui mettrait mal à l'aise ou qui serait trop vulgaire, mais sans non plus être dans la pudibonderie.
Une façon d'affirmer un érotisme de la vie quotidienne, d'une certaine façon. Ça fait aussi partie de la vie.
Oui, exactement. Ça fait partie de la vie. C'est pas l'exception, ou des débuts, parce que. Là, je parle vraiment du point de vue du personnage féminin, du point de vue de la femme, l'érotisme qui serait uniquement réservé à des préoccupations strictement masculines. Non, la femme aussi éprouve des désirs, peut les exprimer, et puis peut avoir un certain appétit, une certaine gourmandise, en fait, de cet érotisme. Donc, pour moi, c'était important de travailler sur cet aspect-là, parce que, ça fait partie de la vie.
Oui, l'érotisme comme un mode d'affirmation, tout comme la musique l'est dans ce livre d'ailleurs, c'est beaucoup plus qu'un simple loisir, elle est révélatrice, la musique.
Oui, je pense que le point commun, c'est que ce sont des révélateurs. Aussi bien l'érotisme, le désir pour mon personnage Anna, la révèle en tant que femme, il y a quelque chose qui se réveille en elle de ce côté-là, et la musique, et oui, vraiment, clairement, ce n'est pas juste un amusement, un divertissement ou un loisir, comme vous le disiez, c'est bien plus, c'est-à-dire que la voix transmet beaucoup de choses, bien plus qu'un simple son. On peut transmettre beaucoup d'émotions, parfois malgré soi d'ailleurs, quand on a peur, notre voix peut trembler, quand on est exalté, excité, pareil. La joie aussi, on peut transmettre beaucoup de choses à travers sa voix, qu'elle soit parlée ou chantée. Et là, le chant, ça va être tout un travail avec le corps, parce que ceux qui chantent un peu le savent, hein, on doit beaucoup travailler sa respiration, sa position, le relâchement des muscles. Ça engage tout le corps, c'est pas simplement sa sensibilité, bien sûr que c'est aussi ça, mais c'est d'abord un travail du corps. Si on n'est pas préparé physiquement, on chantera pas bien. Et donc Anna, elle doit se reconnecter aussi avec cet aspect-là, avec son corps, et le chant va la porter beaucoup plus loin que ce qu'elle n'aurait pu imaginer.
Oui, c'est là toute l'importance des sens dans votre roman.
Oui, c'est vrai. Oui. Et le souffle, la respiration ont une place importante dans l'histoire, parce que c'est quelque chose de concret, quelque chose de palpable. Le souffle, on peut l'entendre, on peut le sentir, et c'est ce qui va porter la voix d'Anna.
On va maintenant laisser un peu Anna, donc le personnage principal de votre roman, pour parler un peu plus d'Alexandra. Vous avez un parcours assez dingue, vous avez exercé plusieurs fonctions au cours de votre vie, journaliste sur Radio Vinci Autoroute, vous accompagnez les routiers de minuit à 6h, vous avez été animatrice sur IDFM Radio avec la chronique qui passait tous les vendredis à 9h20 dans la matinale quand la musique résonne, vous avez travaillé dans des ministères pour le Premier ministre, vous avez été professeur, vous chantez le fado. Expliquez-nous ce parcours allegro, comme je disais au début de cet entretien, pour reprendre un terme musical.
Oui, c'est vrai, vu comme ça, c'est vrai que c'est allegrissimo même, je dirais. J'ai commencé effectivement, quand j'étais toute jeune, par être professeur de lettres. Donc j'enseignais dans les lycées, les collèges en Ile-de-France. Et puis, voilà, c'est un métier qui m'a beaucoup plu. J'aimais beaucoup le rapport aux adolescents parce que, voilà, c'est des êtres qui sont en plein bouleversement, en plein changement. J'avais une affection particulière pour les élèves de seconde. C'était les voir arriver un peu bébés en début d'année, puis voir, voilà, leur esprit critique se développer, découvrir la littérature. Ça, c'était vraiment un bonheur pour moi. Et puis, voilà, au bout de 10 ans, j'ai eu envie de faire autre chose. Et j'avais toujours ce besoin, en fait, de servir l'intérêt général. Ça, pour moi, c'est vraiment un fil conducteur, c'est être utile. Quand on est au service de l'État, on travaille pour les politiques publiques, on veut que le pays avance pour dans différents domaines. Donc voilà, j'ai travaillé dans différents ministères et puis voilà, au bout de quelques temps, j'ai eu envie aussi de faire autre chose. Et c'est vrai que mes activités annexes prenaient beaucoup de place. C'est-à-dire, il y avait le fado le week-end, voilà, où parfois je chantais, parfois j'animais des concerts. Et puis, il y avait les livres aussi qui prenaient de la place. Et puis, j'ai découvert la radio. On m'a proposé de rejoindre l'équipe d'Aligre FM à Paris pour l'émission Lusitania. Et là, je me suis dit, ah non, vraiment... Il y a quelque chose au micro, en fait, je pense que c'est le cas pour beaucoup de journalistes radio et d'animateurs radio. Il peut y avoir la terre entière qui s'écroule autour, on est au micro, mais tout s'arrête, en fait, on est vraiment dedans. Et c'est vrai que cette sensation-là, elle est unique, c'est vraiment un privilège de pouvoir le vivre. Et il m'arrivait parfois d'aller vraiment très très malade en studio, et comme par hasard, j'ouvrais la porte du studio, je refermais, je mettais mon casque, micro, et là tout allait bien, j'étais plus malade du tout. Et je me suis dit, mais cette sensation-là, si je pouvais la ressentir tous les jours, et c'est à partir de là où l'idée ne m'a plus lâchée. Et c'est comme ça que j'en suis venue à me former pour devenir journaliste radio.
Et le fil conducteur de toutes ces activités, c'est la transmission.
Oui, c'est vrai. Ouais. La transmission, que ce soit vis-à-vis des élèves, vis-à-vis aussi dans les politiques publiques, on donne beaucoup de soi. C'est vrai que c'est invisible pour les citoyens, mais il y a des tas de gens qui travaillent pour essayer que les politiques publiques, qu'elles soient de la santé, de l'emploi, de l'intégration, que sais-je encore, fonctionnent. Et clairement, voilà, dans le journalisme ou à la radio, on essaie de transmettre des informations, de la bonne humeur. Et c'est vrai, oui, la transmission, je pense que c'est un bon fil conducteur.
Est-ce que vous vous sentez utile avec vos romans ? Puisque l'activité d'écrivain ici apparaît distinctement des autres.
C'est vrai, mais il y a quand même l'idée de transmettre quelque chose. Et tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne se rend pas à quel point c'est vrai. Parce que l'activité d'écriture, elle est très solitaire. On écrit pour soi, avec sa sensibilité, avec son parcours, avec ses idées, son imagination. Mais une fois qu'on l'a publié, le livre ne nous appartient plus. Et chaque lecteur va reconstruire un univers à partir de ce que vous lui avez offert. Et c'est parfois très déconcertant. J'ai eu des personnes qui m'ont dit « Mais tu sais ce personnage-là, moi je sais qui c'est. » Très bien. Ou d'autres personnes très différentes avec des histoires de vie qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui m'ont dit « Tu as raconté mon histoire. » C'est très très déconcertant. Mmh. Et là je me dis oui, il y a la transmission. Donc je pense qu'il y a quand même un lien avec les autres activités et leur par rapport à l'utilité. C'est vrai que ça paraît un peu prétentieux de dire oui, c'est utile ce que j'écris en tant que fiction. Bah, au moins, si ça permet au lecteur de s'évader, c'est déjà pas mal.
Et puis, visiblement, elle sert de catharsis pour certaines lectrices aussi.
Oui, c'est possible. Oui, le fait de se reconnaître... alors, notamment pour ce dernier roman, pour comme dit la chanson, j'ai plusieurs lectrices déjà qui m'ont dit, voilà, ça fait du bien d'avoir une héroïne qui a plus de 40 ans, qui n'a pas un corps parfait, qui fait comme elle peut avec qui elle est. Parce que souvent, dans les romans qui mettent en scène des personnages féminins, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir des superwomen qui sont belles, intelligentes, qui ont un métier de rêve. Ben non, mais la vie, c'est pas comme ça. Enfin, c'est rarement comme ça, tant mieux pour celles à qui ça arrive. Moi, je n'en connais pas.
Oui, et les femmes de votre roman sont d'ailleurs toutes très ordinaires, très normales.
Oui, et je pense que c'est important parce que quoi de plus déprimant qu'un roman où finalement tout paraît inatteignable. Là, moi, j'avais vraiment envie que cette héroïne s'inscrive dans une vie qui pourrait, encore une fois, être celle de n'importe qui.
Et nous allons continuer à nous inscrire dans la vie de ce personnage en parlant de ce roman, comme dit la chanson, qui a été publié le 21 septembre dernier aux éditions Plume de Marmotte. Dans un instant, restez branchés. Alexandra Vieira, vous qui avez à cœur de décrire des femmes ordinaires, n'êtes-vous pourtant pas une femme extraordinaire ?
Oh non, j'aurais pas la prétention de dire ça, pas du tout. Non, je suis une femme ordinaire, voilà.
Je pense à votre parcours qui est pas commun.
Oui, peut-être qu'il est. Oui, bah effectivement, j'ai eu beaucoup de métiers différents, mais bon, là, il y a toujours un fil conducteur. Et je pense surtout que la tendance actuelle est quand même au niveau professionnel, à ne pas rester dans la même entreprise durant toute une vie. C'est peut-être un schéma qui est en train d'évoluer. Mmh. Alors, avec ses bons côtés, moi, je pense que, voilà, quand on pense avoir donné ce qu'on avait à donner à une entreprise, à une administration, pour mon cas, ben, il faut savoir évoluer parce que c'est bon à la fois pour soi et puis pour les équipes qu'on va rejoindre. Et puis, peut-être aussi, c'est peut-être l'aspect moins... plus négatif, c'est peut-être une impression, voilà, que ça peut donner de zapping, on va dire, on passe vite à autre chose, on n'est pas content, voilà. Après, ça dépend de chaque individu, mais je pense que ça va devenir de plus en plus ordinaire. Peut-être que les gens de ma génération sont les premiers, ceux qui ont un peu plus de 40 ans, ils sont les premiers à oser aller vers d'autres univers professionnels, à changer régulièrement de poste pour être en fait stimulé et puis aussi performant. Je pense que c'est ça qui est important. Je pense que le travail, ça doit être aussi bien ce que l'on donne à l'entreprise, pour faire simple, que ce qu'on reçoit, ce que l'on apprend. Donc ce parcours qui a l'air comme ça... c'est vrai qu'il est diversifié, mais je pense que ça va devenir un peu une norme pour ceux qui ont envie de le faire. Il y aura moins de tabous ou de craintes.
Oui, le travail nous fait autant qu'on le fait.
Ah, clairement. Pour moi, c'est très clairement. Le travail m'a toujours beaucoup apporté, quelle que soit l'expérience, quel que soit le poste auquel je me trouvais. J'ai toujours appris, fait des rencontres. Pour moi, les rencontres, c'est vraiment très important. Et si, à première vue, on peut se dire, bon, cette personne ne se fixe pas, est instable, il y a toujours un fil conducteur. Et je me dis, voilà, c'est toujours une nouvelle étape. Voilà, on se renouvelle et puis c'est ça aussi qui fait un peu le sel de la vie professionnelle, selon moi.
Vous avez donc par le passé, en 2021, publié un premier roman, Julia Florista. Vous venez de publier en septembre 2023 votre second roman, Comme dit la chanson. Comment en arrive-t-on à l'écriture ?
Je pense que c'était très présent depuis toute petite. J'ai toujours été fascinée déjà par l'acte même d'écrire. Même avant de savoir écrire, je prétendais, en faisant des boucles sur des feuilles A4, écrire. Voilà. Ce geste-là me plaît beaucoup. D'ailleurs, j'ai mis un peu de temps à passer à l'ordinateur. Il faut dire que je suis pas née, je suis née en 80. On a découvert, quand on avait 20 ans, ce que c'était que utiliser un ordinateur personnel. C'était plus réservé au monde monde de l'entreprise, Internet, etc. Donc je sais que pour les plus jeunes, ça peut paraître un peu monde des dinosaures, mais c'est une réalité relativement récente à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et donc voilà, l'acte d'écrire me plaît beaucoup. Déjà, l'acte physique d'écrire, c'est plaisant. Même encore aujourd'hui, j'ai des carnets de notes où j'aime écrire. Alors bien sûr, quand je travaille sur mes textes, c'est toujours sur un traitement de texte. Hein. Je vais pas m'amuser, pourquoi pas après tout, mais moi, c'est pas le cas, à écrire d'abord de façon manuscrite pour reprendre ensuite, non. Ça, ça a été vrai peut-être dans les débuts du premier roman, parce que j'ai écrit très jeune la première version. Mais c'est vrai que l'écriture elle-même me plaît. Et puis ensuite, quand on arrivait à l'école et au collège, surtout des fiches où on nous demandait, voilà, quelle est la profession que vous aimeriez exercer plus tard? Et j'écrivais toujours deux métiers. Et il y avait forcément, romancière. Ça, c'était, je le savais depuis le début. Ça a mis du temps à se concrétiser. Mais voilà, je pense que c'était très présent, très tôt.
Comment expliquez-vous que ce ne soit arrivé qu'en 2021?
Parce qu'il a fallu déjà beaucoup travailler. L'écriture, c'est comme n'importe quelle autre activité, faut s'entraîner. Ça, on a en France et puis dans beaucoup de pays européens, je pense, ce fantasme de l'inspiration qui tombe du ciel, un peu. On est possédé par l'enthousiasme et puis on écrit tout d'une traite. Mais c'est pas du tout comme ça. Hein. On écrit, c'est souvent assez nul ce qu'on écrit au début. Et puis faut travailler, faut beaucoup lire. Écrire, paradoxalement, c'est d'abord savoir lire. Pour connaître différents auteurs, différents types d'écriture, se forcer à lire ce qu'on n'aime pas à lire, ça aussi, ça je l'ai appris sur le tard, mais c'est très formateur, se dire mais pourquoi ça ne me plaît pas, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui m'énerve, et c'est très très formateur. Savoir imiter aussi, dans les exercices d'écriture, c'est très intéressant de savoir transposer. Et puis, savoir lire aussi avec un œil d'écrivain, c'est-à-dire analyser. Et c'est comme pour la musique, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on se laisse pas porter par l'émotion première au bout d'un moment, mais un musicien, il vous le dira, il va forcément avoir l'oreille professionnelle qui va prendre le dessus. C'est pas l'émotion qui va venir en premier, c'est tiens, ça c'est construit de telle façon, il joue sur telle gamme, ou enfin je sais pas, mon mari me dit souvent, ah bah tiens, ça il le joue en telle tonalité. Je dis mais écoute, et non mais lui tout de suite il se met dans cet état d'esprit là d'analyser. Et l'écriture c'est pareil, quand on lit, on acquiert ce réflexe qui est bon pour l'écriture d'analyser. Donc, je pense que ça a pris du temps, ce travail-là. Et puis, il y a aussi une autre réalité, c'est que nous sommes très nombreux à écrire et très peu à être publiés. Et ça m'a pris des années, en fait, avant de trouver ma maison d'édition. C'est vrai aussi de grands auteurs hein, qui ont mis des années avec des refus nombreux et répétés de leurs manuscrits. Et puis n'oublions pas que même Saramago n'a commencé à publier qu'à partir de 50 ans.
C'est vrai, il a fini prix Nobel de littérature en 98. Et vous, qu'avez-vous lu ou qu'aimez-vous lire justement pour vous inspirer?
Alors, auparavant, je pense que c'est lié aussi à ma formation universitaire et de professeur. Je lisais uniquement des grands classiques. Pour moi, la littérature, grosso modo, s'arrêtait fin du 19e, début du 20e. J'avais beaucoup de mal et puis, bizarrement, assez peu de temps de lire des romans contemporains. Et donc, j'ai une formation classique qui est assez, assez solide. Et j'aime beaucoup les auteurs du 19e siècle, hein, que ce soit les auteurs français, Balzac, Zola, Flaubert, ou portugais, Assad Queiroz, j'adore. Quand j'ai arrêté d'enseigner, c'est comme si je m'autorisais à lire autre chose que des classiques. Non pas que je ne réfléchissais uniquement que par le prisme de mon travail, je me disais, ah, mais ce texte-là, je vais pouvoir le faire étudier à mes élèves. Non, pas du tout. Il y avait certes ce côté-là, mais il y avait aussi mon goût personnel. Je trouvais qu'il y avait une pureté de la langue, de l'écriture, et voilà, ce sont de grands maîtres quand même en littérature. Et à partir du moment où j'ai arrêté de faire cours, bizarrement, là, je me suis vraiment ouverte à ce qui s'écrivait aujourd'hui.
En vous lisant, j'ai beaucoup pensé à Akira Mizubayashi.
Ah bah merci
si vous
beaucoup.
Vous connaissez cet auteur, mais qui écrit beaucoup sur la musique et sur le rôle de la musique. Je pense à Âme brisée, à Suite inoubliable.
Merci beaucoup. Alors, je me suis pas directement inspirée de cet auteur, mais c'est vrai que on fait forcément partie d'une époque, et on a des influences qui agissent sans doute malgré nous aussi. Mais aujourd'hui, je vais être capable de lire des auteurs, du reste du XXe siècle, hein, sans me contenter de lire jusqu'à Proust et puis après plus rien. Mais aussi des auteurs qui paraissent aujourd'hui plus ou moins connus. Et puis, je vais à la rencontre des auteurs aussi. Ça, c'est important pour échanger avec eux. Les dédicaces en librairie, moi, je vous y encourage. Si vous n'avez jamais osé sauter ce pas-là, mais faites-le parce que rencontrer un auteur, on rencontre une personne. On voit que c'est une personne comme une autre, déjà, qui est souvent accessible. Hein, si elle décide de se rendre à la rencontre des lecteurs, c'est qu'elle se rend accessible. Et puis, en tant qu'écrivain aussi, c'est très intéressant de savoir comment les gens travaillent, comment les confrères travaillent.
Merci beaucoup, Alexandra Viera, d'être venue jusqu'ici à Radio Alpha nous parler de ce second roman, votre roman, Comme dit la chanson, publié aux éditions Plume de Marmotte. Merci beaucoup.
Merci Didier, bon après-midi à tous les auditeurs.